Bridget James, un portrait de femme, chapitre 8. Connaissant le goût d'Isabelle pour les effets romantiques, Lord Warburton exprima l'espoir qu'elle voulût bien venir un jour visiter sa demeure qui était ancienne et fort curieuse. Il arracha à Mrs. Tuchet la promesse d'amener sa nièce à Lockley, et Ralph manifesta son intention d'accompagner les dames si son père pouvait se passer de lui. Lord Warburton déclara aussi à notre héroïne qu'elle allait entre-temps recevoir la visite de ses sœurs. Elle possédait déjà quelques notions sur leur compte, car pendant les heures de leur commun séjour à Garden Court, elle avait interrogé le jeune homme sur bien des points concernant sa famille. Quand l'intérêt d'Isabelle était éveillé, elle posait de nombreuses questions, et comme son interlocuteur parlait d'abondance, elle n'avait pas eu à le pousser beaucoup. Il avait 4 sœurs et 2 frères, et leurs parents étaient morts. Ses frères et sœurs étaient de braves gens, pas particulièrement intelligents, vous savez, mais très corrects et très gentils, et il exprima l'espoir que Miss Archer arriverait à les bien connaître. L'un des frères, pasteur de la cure familiale de Lockley, desservait sa lourde et vaste paroisse et, bien qu'il différât diamétralement de son frère sur tous les points imaginables, faisait un excellent garçon. Sur quoi Lord Warburton énuméra certaines des opinions professées par son frère, et qu'Isabelle, pour les avoir souvent entendues exprimer, tenait pour celles d'une bonne portion de l'espèce humaine. Il lui semblait même en avoir partagé un bon nombre, mais il lui affirma qu'elle se trompait du tout au tout, que c'était chose impossible et pure imagination de sa part, et qu'elle est bien considérée, elle ne manquerait pas d'en découvrir le néant. Et comme Isabelle se récriait et affirmait avoir attentivement pesé certains de ses problèmes, son compagnon conclut qu'elle offrait une démonstration nouvelle d'un fait qui l'avait toujours frappé chez les Américains, qui étaient bien de tous les peuples du monde le plus foncièrement traditionaliste. Tous réactionnaires et bigots, ils se montraient plus conservateurs que les pires conservateurs. Il suffisait de regarder l'oncle et le cousin d'Isabelle. On ne pouvait imaginer façon de voir plus moyenâgeuse que les leurs. Ils professaient des idées dont les Anglais modernes auraient rougi, ce qui ne les empêchait pas, ajoutait en riant Lord Warburton, d'avoir l'impudence de prétendre en savoir plus long sur les besoins et les périls de cette pauvre et absurde vieille Angleterre que lui qui y était né et qui, pour sa plus grande honte, en possédait une bonne tranche. De tout cela, Isabelle conclut que Lord Warburton était un noble de la dernière école, réformateur, radical et contempteur des vieux usages. Son autre frère, officier de l'armée des Indes, quelque peu tête brûlée et stupide, n'avait guère fait jusque-là que des dettes que Lord Warburton devait à sa qualité de frère aîné le précieux privilège de payer. « Je crois que je ne paierai plus, » disait l'intéressé. « Il mène un train de vie infiniment plus splendide que le mien, s'offre des luxes inouïs et s'estime beaucoup meilleur gentilhomme que moi. En bonne logique radicale, je tiens à l'égalité et ne vais pas jusqu'à reconnaître la supériorité des cadets. » 2 des 4 sœurs, la seconde et la quatrième, étaient établies. La première avait trouvé un très beau parti, la seconde avait fait un mariage quelconque. Le mari de l'aînée, Lord Haycock, un très brave garçon, était malheureusement un affreux tory, et sa femme, en digne épouse anglaise, enchérissait sur lui. La seconde avait épousé un petit propriétaire de Norfolk, et bien que mariée de la veille, avait déjà 5 enfants. Lord Warburton donnait maints détails de cette sorte et s'efforçait d'exposer clairement et de faire bien saisir à sa jeune interlocutrice les particularités de la vie anglaise. Isabelle s'amusait souvent de lui voir prendre tant de peine et de constater le peu de fond qu'il semblait faire de son expérience ou de son imagination. « Il me prend pour une barbare, songeait-elle, et se figure que je n'ai jamais rien vu. » Elle lui posait alors des questions naïves pour la joie de l'entendre répondre sérieusement. Puis, quand il était tombé dans le panneau, « Quel dommage que vous ne me voyiez pas en attirail de guerre, avec mes plumes et mes tatouages, » disait-elle. « Si j'avais connu votre intérêt pour les pauvres sauvages, j'aurais apporté mon costume de tribu. » Lord Warburton, qui avait parcouru les États-Unis et en savait beaucoup plus long qu'Isabelle sur l'Amérique, voulut bien affirmer que c'était le plus charmant pays du monde, mais que d'après ses souvenirs, les Américains débarqués en Angleterre devaient trouver bien des choses inexplicables. « Si je vous avais seulement eu en Amérique pour me donner des explications, s'écriait-il, je me suis trouvé un peu dérouté dans votre pays, tout à fait égaré parfois même, et le malheur, c'est que tous les éclaircissements ne servaient qu'à m'ahurir davantage. Je suppose qu'on s'amusait souvent à me mystifier, c'est un genre de plaisanterie que l'on pratique volontiers là-bas. Ici, vous pouvez vous fier à mes explications. Il n'y a pas à douter de ce que je vous dis. » Il n'y avait pas à douter, en tout cas, de son intelligence, de sa culture, de l'universelle portée de ses connaissances. Bien qu'il sût donner sur toute chose les aperçus les plus variés et les plus passionnants, Isabelle sentait qu'il était aussi loin que possible de se faire un mérite de toutes les occasions précieuses dont il avait profité et de tous les gros lots qu'il avait décrochés, comme le disait la jeune fille. Il jouissait de ce que la vie offre de meilleur, sans laisser fausser son sens des proportions. Sa qualité propre résultait du mélange d'une riche expérience, d'ailleurs bien facilement acquise, et d'une modestie presque juvénile, dont le parfum aimable et sain, doux comme celui d'un fruit au palais, ne perdait rien à l'adjonction d'un grain de bienveillance consciente. « Votre spécimen du gentilhomme anglais me plaît beaucoup, » dit Isabelle à Ralph, après le départ de Lord Warburton. « Il me plaît aussi, je l'aime fort, » répondit Ralph, « et je le plains encore plus. » Isabelle le regarda non sans curiosité. « Oh, pour moi, précisément, son seul défaut, c'est qu'on ne trouve pas du tout à le plaindre. Il fait l'effet de tout posséder, de tout savoir, d'être tout ce que l'on peut être. »« Si, si, il est dans une mauvaise passe, » insista Ralph. « Comme santé, voulez-vous dire ?»« Non, pas comme santé, il est odieusement vigoureux. Ce que je veux dire, c'est qu'il occupe une haute situation, dont il ne sait que faire. Il ne se prend pas au sérieux. » « Considère-t-il donc cette situation comme une absurdité ?»« Bien pis, il la regarde comme une survivance de l'injustice, comme un abus durable. »« Il a peut-être raison, » fit Isabelle. « Peut-être, bien que je ne le croie guère pour ma part. Mais si je me trompe, y a-t-il rien de plus pitoyable qu'un abus qui se sent tel, qui fut planté par d'autres mains, qui a pris de profondes racines et continue à souffrir de sa propre injustice ?» Moi, à sa place, je saurais rester solennelle comme une statue de Bouddha. Une position comme la sienne parle à mon imagination. De grandes responsabilités, de grandes facilités, une grande considération, une grande fortune, une grande puissance, une participation naturelle aux affaires publiques d'un grand pays. Or, il ne sait que penser de lui-même, de sa position, de son pouvoir, ni en définitive de quoi que ce soit au monde. Il est la victime d'une époque critique. Il a cessé de croire en lui-même, et il ne sait plus à quoi il pourrait croire. Quand j'essaye de le lui expliquer, car, à sa place, je sais bien à quoi je croirais, il me traite de bourgeois repu. Je crois qu'il me prend vraiment pour un abominable philistin. Il m'accuse de ne pas comprendre mon époque. Je la comprends certes mieux que lui, qui n'a la force ni de se supprimer comme un abus, ni de se maintenir comme une institution. Il n'a pourtant pas l'air si malheureux, fit observer Isabelle. « C'est possible, mais comme c'est un homme de goût, je pense qu'il a souvent des heures bien tristes. Qu'est-ce au reste pour un être dans une belle situation de dire qu'il n'est pas malheureux? D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il l'est. »« Moi pas, » dit Isabelle. « Eh bien, conclut son cousin, s'il ne l'est pas, il devrait l'être. » L'après-midi de ce même jour, elle passa une heure sur la pelouse près de son oncle, qui y était assis selon son habitude, avec son châle sur les jambes et une grande tasse de thé léger à la main. Au cours de leur entretien, le vieillard demanda à sa nièce ce qu'elle pensait de leur visiteur. « Je le trouve charmant, » répondit sans hésiter Isabelle. « Il est très aimable, en effet, » concéda Mr. Touchett, « mais je ne vous engage pas à l'aimer. »« Je m'en défendrai alors, j'aurai soin de n'aimer que sur votre recommandation. » D'ailleurs, ajouta la jeune fille, mon cousin m'a parlé de Lord Warburton en termes attristés. « Ah, vraiment, je ne sais pas ce qu'il a pu trouver à vous dire. » Mais vous savez qu'il faut toujours qu'il parle. Il trouve son ami trop subversif, ou pas assez... Je ne sais pas au juste, répondit Isabelle. Le vieillard hocha doucement la tête et sourit en reposant sa tasse. Je ne le sais pas très bien non plus. Il va très loin, mais il est bien possible qu'il n'aille pas encore assez loin. On dirait qu'il veut en finir avec bien des choses, et ne tient pas moins à rester lui-même. C'est assez naturel, évidemment, bien qu'un peu illogique. « Oh, j'espère bien qu'il restera lui-même, » s'écria Isabelle. « Ses amis auraient beaucoup de peine à se passer de lui. »« Je crois bien qu'il continuera à les amuser, » dit le vieillard. « Pour ma part, il me manquerait beaucoup. Il m'amuse toujours quand il vient à Garden Court, et je crois qu'il s'y amuse aussi. Il y a pas mal de jeunes gens construits sur son modèle dans le monde. C'est la mode du jour. Je ne sais pas ce qu'il demande, et s'il cherche à préparer une révolution, j'espère en tout cas qu'ils voudront bien attendre mon départ pour la faire. » Ils veulent exproprier tout le monde, et moi qui possède pas mal de terres par ici, je n'ai aucune envie de me laisser dépouiller. Si j'avais cru qu'on en vint à cela, je n'aurais pas traversé l'océan, continua Mr. Touchett d'un ton enjoué. Je suis venu m'installer en Angleterre parce que je croyais m'y trouver en sûreté. Ce serait une véritable escroquerie que d'y laisser introduire de gros changements, et il y aurait bien d'autres gens désappointés que moi. Oh, moi, j'espère bien qu'on va faire une révolution, s'écria Isabelle. Je serais ravie d'en voir une. Voyons donc, dit son oncle d'un ton ironique, je ne sais plus à quel parti vous appartenez. Je vous ai entendu soutenir tant d'opinions opposées. J'appartiens aux deux partis, un peu à tous peut-être. Dans une révolution, une fois qu'elle serait bien engagée, je crois que je serais hautement et fièrement loyaliste. C'est le côté le plus sympathique, et où l'on a la chance de se conduire proprement. Je veux dire, de façon pittoresque. Je ne suis pas très sûre de bien saisir votre idée du pittoresque en pareil cas, mais il me semble que vous êtes toujours pittoresque, mon enfant. Il est du moins charmant à vous de vouloir me le faire croire, interrompit Isabelle. J'ai peur, en tout cas, que vous n'ayez pas d'ici peu le plaisir de monter avec grâce à la guillotine, poursuivit Mr. Touchett. Si vous tenez à voir une grande explosion, il faudra rester longtemps avec nous. En somme, voyez-vous, ces gens-là n'aimeraient pas trop qu'on les prenne au mot. De quels gens parlez-vous? De Lord Warburton et de ses amis, des radicaux du grand monde. Je ne juge évidemment que d'après mon opinion personnelle. Ils parlent beaucoup de transformation, mais je ne crois pas qu'ils se rendent bien compte de ce qu'ils demandent. Vous et moi, n'est-ce pas? Nous savons ce que c'est que de vivre sous des institutions démocratiques. Je m'en suis toujours bien trouvée, mais j'y ai été habituée dès l'enfance, et puis je ne suis pas un lord. Eh bien, je crois qu'ils ne comprennent pas très bien ici qu'il s'agit d'une affaire de tous les jours et de toutes les heures, et que la plupart d'entre eux ne trouveraient pas notre existence aussi agréable que la leur. S'ils veulent en tâter, c'est leur affaire, bien entendu, mais je doute qu'ils y mettent beaucoup d'ardeur. « Alors vous ne les croyez pas sincères ?» demanda Isabelle. « Oh, ils voudraient bien se prendre au sérieux, » concéda Mr. Touchett. « Mais je crains que tout pour eux se passe en théorie. Leur radicalisme est une sorte d'amusement. Je reconnais d'ailleurs qu'il leur faut une distraction quelconque et qu'ils pourraient avoir des goûts plus brutaux. Ils sont habitués à toutes sortes de luxes, dont leurs idées libérales sont le plus élevées. Ils s'en sentent meilleurs, sans toucher à leur situation. Ils font grand cas de leur situation. Ne vous y trompez pas, car si vous vous laissiez persuader du contraire, vous vous feriez vite rappeler à l'ordre. » Isabelle suivait docilement le raisonnement que son oncle développait avec son amusante précision, et malgré l'ignorance où elle était de l'aristocratie anglaise, ses idées lui semblaient en harmonie avec son expérience de la nature humaine en général. Elle ne put cependant se retenir d'élever une protestation en faveur de Lord Warburton. « Je ne crois pas que ce soit un songe creux, » dit-elle. « Peu m'importe ce que sont les autres, mais j'aimerais voir mettre Lord Warburton à l'épreuve. » « Le ciel nous garde de nos amis, » se récria Mr. Touchett. « Lord Warburton est un très aimable, un charmant jeune homme. Il a 100 000 livres de rente. Il possède 50 000 arpents de cette petite île, et 1000 autres choses encore. Il a une demi-douzaine de châteaux à habiter, et un siège au Parlement, comme j'en ai un à ma table. Il a des goûts élégants, il aime la littérature, l'art, les sciences, les charmantes jeunes filles. » Et ce qu'il professe encore de plus élégant, c'est son goût pour les idées nouvelles. Il en tire beaucoup de plaisir, plus peut-être que de toute autre chose, sauf des jeunes femmes. La vieille demeure qu'il a près d'ici, Lockley, comme on l'appelle, est très intéressante, bien que je ne la croie pas aussi belle que la mienne. Peu importe d'ailleurs, il en a tant d'autres. Ses opinions ne font de mal à personne, autant que je puis en juger, et ne lui font certainement pas de mal à lui. Et s'il survenait une révolution, il s'en tirerait sans dommage, on ne le toucherait pas, on le laisserait tel qu'il est et tel qu'on l'aime tant. « Il ne pourrait donc pas être un martyr, même s'il en avait le désir, » soupira Isabelle. « C'est une situation bien triste. »« Il ne fera jamais un martyr, à moins que ce ne soit de votre fait, » déclara le vieillard. Isabelle hocha la tête, et on aurait pu sourire en constatant qu'elle le faisait avec une sorte de mélancolie. « Je ne ferai jamais de martyr de personne. Et j'espère que vous ne le serez pas non plus. Je l'espère aussi. Mais vous ne plaignez pas Lord Warburton comme le fait Ralph, alors ?» Son oncle la considéra un instant avec une curiosité attendrie. « Si, je crois bien que je le plains, après tout.